Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de commencer juillet avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture, les succès et les insuccès. On va vous faire découvrir par exemple un classique de la littérature, 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et pourtant, en France, qui connaît Watership Down? Eh bien vous, dans quelques minutes, il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino, notre infomédia, notre Voie lactée qui existe depuis 13 milliards d'années, c'est beaucoup. Et le bimestriel Ciel et Espace a été créé en 45, 75 ans, c'est beaucoup aussi. Ils sortent aujourd'hui un numéro spécial, les essentiels pour débuter en astronomie, car c'est un éternel recommencement. Et puis nos invités, Jean-Marc Lalanne, le patron de la rédaction des Inrecuptibles, les Inrocs qui vont fêter eux leurs 25 ans ce mois-ci et qui, comme on dit, sont peut-être à un tournant stratégique de leur histoire. Explication. Enfin, l'inoxydable Hugo Frey pour son nouvel album Autoportrait. Ça ne pouvait pas mieux tomber comme titre puisqu'il y aura évidemment son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, Cyril. Qu'avez-vous au sommaire ce matin?
YouTube serre la vis, Xavier Niel qui se mue en sauveur des causes perdues de la presse écrite, le bilan de la saison côté journaux télévisés et une innovation du magazine Télé Loisirs.
Mais on débute évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision?
France 3 est bel et bien la chaîne qui fait parler d'elle en cette fin de saison. Les deux épisodes de la série Crime Parfait ont été suivis par près de 5 millions de téléspectateurs. La séquence nostalgie de TF1 qui a ressorti le tout premier Jurassic Park de Steven Spielberg n'a pas permis de faire mieux que la rediffusion de France 3. Il y avait près de 3 700 000 téléspectateurs devant la une. M6 est troisième avec la France, un incroyable talent, la bataille du jury. L'émission a été regardée par tout juste 2 millions de personnes et des déception pour l'émission Sur le front sur France 2, suivie par 1 700 000 personnes, et pour le Prime de C'est dans l'air, suivi lui par 580 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec les plateformes internet qui montrent leurs muscles. Après Twitter qui s'attaque à Donald Trump, c'est YouTube qui fait le ménage parmi ses contenus très indésirables.
Oui, il semble y avoir enfin, on dirait presque, du changement au sein de la Silicon Valley. Accusé depuis très longtemps de laisser se propager la haine en ligne, voire même de l'encourager, les réseaux sociaux seraient-ils en pleine crise de conscience? C'est fort possible à en croire le gigantesque coup de balai que vient de donner YouTube. Aux États-Unis, plus de 25 000 chaînes ont été purement et simplement supprimés, principalement des chaînes d'extrême droite et relayant des thèmes suprémacistes. Et dans le lot, cette fois en France, la chaîne de Dieudonné est aussi passée à la trappe. La page de l'ancien humoriste comptait plus de 400 000 abonnés quand même, et Dieudonné y postait une vidéo presque tous les jours. YouTube n'a pas voulu se justifier spécifiquement sur la question de cette chaîne. Un porte-parole a simplement déclaré que Dieudonné avait plusieurs fois enfreint le règlement de la communauté de YouTube. L'Union des étudiants juifs de France s'est félicitée de cette mise à l'écart de Dieudonné après avoir signalé des dizaines de ses vidéos au cours des derniers mois. Dieudonné, lui, s'est plaint sur Facebook de la disparition de sa page en invoquant des pressions israéliennes.
Xavier Niel continue ses emplettes dans le secteur de la presse écrite.
Après Nice Matin, après France Antilles, le patron de Free va reprendre le groupe Paris Turf contre un chèque d'1 million d'euros. Une pécadille hein, pour la fortune de Xavier Niel qui est estimée à plus de 8,5 milliards d'euros. Paris Turf, c'est bien sûr le quotidien que vous connaissez
évidemment,
forcément si vous êtes déjà allé sur un champ de course, mais c'est aussi les sites Bilto et Paris Course. Paris Turf, c'est un groupe qui va mal, 2 millions d'euros de pertes rien que l'année dernière. Et voilà donc Xavier Niel qui vole à son secours. L'homme d'affaires est en train de se constituer un portefeuille très hétéroclite de titres de presse, car évidemment, à part Paris Turf, France Antilles et Nice Matin, il faut évidemment lui ajouter le groupe Le Monde, dont il est un des propriétaires.
Cyril, on continue avec le bilan de la saison et ce matin, vous faites un point sur l'offre d'information.
On le sait, on l'a dit ici régulièrement avec la crise sanitaire, les journaux télévisés ont été très regardés par les Français. Ils ont battu des records d'audience et question info, eh bien, il n'y a pas eu de match. TF1 a écrasé la concurrence et réalisé sa meilleure saison depuis 5 ans. C'est à 13h que la Une domine le plus, avec 41% de part d'audience et quasiment 6 millions de téléspectateurs de moyenne. Le journal de 13h de TF1 survole tout le monde, que ce soit la semaine ou le week-end. Personne n'arrive à la cheville de Jean-Pierre Pernaut et d'Anne-Claire Coudray et de leur joker, évidemment. à 20h. Le constat est similaire, il n'y a pas eu de match entre Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix. L'écart entre les deux éditions est en moyenne d'un million de téléspectateurs sur la saison. Les 20h de TF1 ont été regardés par 6 400 000 Français chaque jour depuis le mois de septembre. Du lourd, du très très lourd. Les journaux de Gilles Boulot et d'Anne-Claire Coudray occupent d'ailleurs 20 des 25 meilleures audiences des JT de la saison, avec évidemment un grand gagnant, le journal du 13 avril, regardé, lui, par 12 700 000 personnes. Oui. C'est un record depuis 15 ans. Ce soir-là, Emmanuel Macron avait fait une allocution suivie par près de 95% des personnes présentes devant leur poste de télé.
Et puis Cyril, on reste du côté de l'information avec un point sur ce qui se passe à Next Radio TV, c'est le feuilleton.
Oui, un mot rapide sur la situation du côté du groupe qui abrite les chaînes BFM et RMC. Une assemblée générale va se tenir aujourd'hui à 12h30. Elle doit permettre aux salariés de faire le point sur la situation et les négociations. Les organisations syndicales m'ont dit espérer des propositions concrètes aujourd'hui de la part de la direction.
Vous nous l'avez annoncé, le magazine Télé Loisirs innove pour offrir à ses lecteurs une nouvelle expérience.
Si vous rêvez de visiter les studios de votre feuilleton préféré, d'aller dans les coulisses de Roland-Garros avec Nelson Montfort ou de prendre des cours de chant avec Chimène Badi, voire même bientôt de faire de la radio avec Philippe Vandel, c'est désormais possible grâce au Pass Télé Loisirs. Un tout nouveau concept que nous explique Thierry Mascot, le rédacteur en chef de la newsroom TV de Prisma Média, à qui appartient Télé Loisirs.
Donc pour jouer, le participant choisit l'expérience qu'il a envie de réaliser, l'expérience qui le fait rêver. Le participant joue ensuite en un mini-jeu très simple, il tente de faire le meilleur score et il valide sa participation avec le paiement d'un montant de son choix qui peut être très modique, quelques euros. Ensuite, le meilleur, celui qui a réalisé le meilleur score, gagne et peut réaliser cette expérience extraordinaire qui était au départ, je le rappelle, un rêve pour lui. Il peut miser au minimum la somme de 5 euros, donc vous voyez, c'est très modique. Et ensuite, il peut miser plus et le sens de ce libre choix, c'est que la somme récoltée autour de ces expériences est reversée en partie à des associations qui ont été choisies avec les personnalités.
Pour qu'on comprenne bien, que vous décidiez de donner 5 euros ou 50 euros, cela ne changera rien à vos chances de gagner. Pour Télé Loisirs, ce pass est aussi et surtout une manière de créer un nouveau lien avec ses lecteurs et ceux qui viennent sur son site. On écoute à nouveau Thierry Mascot.
Dans la stratégie Télé Loisirs, aujourd'hui, on considère qu'on s'adresse à des communautés de passionnés, premièrement, et que ces communautés de passionnés, on veut vivre ces passions avec elles et on veut vivre ces passions au-delà des écrans, donc dans la vraie vie. D'où ce choix d'aller vers l'expérientiel, de proposer des expériences. Aujourd'hui, quand on est fan d'un programme, quand on est fan d'une personnalité, on ne veut pas se contenter de regarder via un écran ce programme, mais on veut découvrir les coulisses, on veut aller sur place, on veut discuter avec les comédiens, et c'est ça le sens de notre démarche. C'est aussi une manière de fidéliser, bien sûr, de créer un lien beaucoup plus fort avec nos audiences, avec les communautés, puisque en partageant ces passions, en quelque sorte, nous sommes ensemble dans la grande famille des passionnés, encore une fois, d'un programme, d'un sport, d'une émission, et on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses.
Créer une expérience unique, c'est ce que cherchent tous les médias de nos jours, une manière de fidéliser les utilisateurs, mais aussi, bien sûr, pour Télé Loisirs, de se créer une nouvelle source de revenus.
Le meilleur joueur de basket au monde investit dans les médias.
LeBron James a décidé de mettre le paquet, 100 millions de dollars. Le nom de ce nouveau média, Spring Hill, comme le nom de la cité où LeBron James habitait enfant avec sa mère. Et ce nouveau média a un but bien précis, permettre l'émergence de créateurs, de personnes qui sont souvent ignorées par les médias traditionnels, c'est-à-dire bien sûr toutes les minorités, qu'il s'agisse des minorités sexuelles, de leur couleur, des orientations sexuelles ou même que les personnes bien sûr soient handicapées. Spring Hill montre déjà l'exemple dans la composition de son équipe. Les salariés y sont à 64% de couleur et 4 sur 10 sont des femmes. Pour LeBron James et son associé Maverick Carter, cette initiative fait partie des réponses au mouvement Black Lives Matter. LeBron James fait partie de ces sportifs très engagés pour soutenir la communauté noire. Il a aussi beaucoup investi dans le quartier de son enfance en construisant une école pour aider les plus défavorisés. Et il est, j'allais dire presque évidemment, un opposant revendiqué à Donald Trump.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La Voie lactée existe depuis 13 milliards d'années et demie et ce bimestriel existe, lui, depuis 75 ans et pas et demi. Un numéro spécial, Les Essentiels de Ciel et Espace, débuté en astronomie, qui sort aujourd'hui dans les kiosques. Le numéro qui propose de comprendre la ronde des astres, de se repérer parmi les étoiles et d'observer les planètes, les nébuleuses et les galaxies. Pour en parler, nous recevons Alain Siroux, confrère d'Europe 1, directeur de la rédaction de Ciel et Espace et directeur général de l'Association française d'astronomie. Voilà, j'ai tout dit. Bonjour Alain.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Question rituelle, comment avez-vous vécu le confinement ?
Alors moi j'ai eu de la chance d'être confiné, si je puis dire, dans le Perche, ma région natale. Ouais. Et étant au milieu des pâturages, des bois, j'ai pu observer le ciel pratiquement toutes les nuits. Ce qui était quelque chose d'incroyable parce que d'abord il a fait très très beau, mais surtout le ciel, ça ne pouvait pas exister autrement, a été tout d'un coup libéré de toute autre chose que de phénomènes naturels. Ouais. Il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus rien qui manifestait une présence humaine au-dessus de nos têtes, sauf la station spatiale qui passait régulièrement comme...
Alors, attendez, vous avez réussi à la voir, parce que dans Ciel et Espace, je vais aller direct, c'est une question que j'avais prévue. Ouais. Vous dites, on peut voir la station spatiale au-dessus de nos têtes, je ne savais même pas que c'était possible.
Bien sûr, parce que la station spatiale tourne autour de la Terre régulièrement.
Ben, ça, je le sais. Non, mais je pensais que les nuages, la distance, le manque de luminosité, plus la pollution, empêchaient de la voir.
Non, il faut d'abord, effectivement, que le ciel soit partout. Parfaitement bien dégagé, qu'il n'y ait pas de nuages, et puis au coucher du soleil plutôt. Vous savez, ce sont les rayons du soleil qui se reflètent sur les panneaux solaires de station.
C'est
la station.
Ce n'est pas les clignotants de la station.
Alors, on ne peut pas les voir, il y en a quelques-uns. Mais la taille de la station, c'est pratiquement un terrain de football, donc c'est très très grand. Donc quand ça passe au-dessus de notre tête à 400 km d'altitude, c'est aussi brillant que Jupiter. Mais pendant cette période, eh bien, moi j'ai pu suivre mais vraiment le mouvement des astres. Et vous savez, le ciel, c'est comme un jardin. C'est-à-dire que on a bénéficié de jardins au printemps absolument merveilleux. On a vu sortir les roses, les lys. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Et le ciel, c'est pareil. C'est-à-dire que à chaque période est associée des constellations différentes.
Ouais.
Et pendant le confinement, j'avais au-dessus de ma tête, pratiquement au zénith, la constellation du lion, les pattes du lion, qui sont une des plus belles constellations du printemps. Et ça nous fait toujours penser que, vous savez Philippe, si Platon revenait, si Charlemagne revenait, si Ramsès, vous mettez tous les personnages historiques, la seule chose qu'ils reconnaîtraient de ce monde, c'est le ciel. Ouais. C'est-à-dire, c'est les étoiles, parce qu'elles n'ont pas bougé, ou très très peu. C'est quelque chose qui a été dessiné par les Babyloniens, qui a été instruit par des histoires écrites par des Romains et des Grecs, qui a des noms arabes, et qui, grâce aux Occidentaux, a permis de voir plus loin, en trois dimensions dans le cosmos. Vous voyez que c'est un palimpseste.
Il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport à Ramsès II, même à Ramsès III, c'est que maintenant, il y a des appareils. Vous regardez le ciel avec quoi ? Vous regardez avec l'œil nu ou avec des télescopes ? Avec quoi vous regardez vous-même ? Vous donnez des conseils dans le magazine, mais vous-même, avec quoi ?
Alors moi, je regarde à l'œil nu et avec des jumelles. Pour une raison très simple, c'est que...
Ah bon ?
Oui, parce que l'œil nu permet d'apprécier l'ensemble. C'est-à-dire que le ciel n'est pas à part.
Ouais. Mais avec des jumelles, ça ne bouge pas. Je crois qu'il fallait un télescope avec un pied pour si on voulait voir des objets lointains.
Bah alors, avec une paire de jumelles, vous grossissez à peu près 10 fois ce que vous apercevez. Avec une lunette, vous augmentez pratiquement de 50 à 100 fois. Mais ce n'est pas tellement le grossissement qui compte, c'est finalement ce que vous regardez. C'est-à-dire que vous pouvez être un entomologiste et puis simplement, par exemple, d'essayer de regarder la ruche. Finalement, d'aller voir une abeille ou essayer de trouver la reine des abeilles. Vous voyez, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Le ciel, c'est pareil. C'est-à-dire que le ciel s'est rempli de choses qui sont visibles à l'œil nu de façon d'ensemble et des choses que vous regardez uniquement au télescope ou à la lunette.
Vous avez répondu à la première question que j'avais prévue, à savoir à qui s'adresse votre magazine, aux passionnés, aux néophytes. On comprend très très bien le plaisir que vous avez de la vulgarisation des informations et que vous parlez aussi aux connaisseurs.
Aux enfants.
Vous expliquez comment il faut s'y prendre pour les premières observations. Et là, j'aime beaucoup attendre la nuit, sans doute quand même. Mais vous expliquez que lorsque le soleil se couche, on observe déjà une étoile.
Oui, absolument. Parce que le soleil est une étoile. On a souvent du mal à faire le lien entre le soleil, qui est une étoile, et les autres étoiles qu'on voit dans le ciel. On dit souvent que le soleil, c'est la seule étoile qu'on ne peut pas voir la nuit. Ouais. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on tourne autour et on est tellement obnubilé par elle que...
Juste un mot, je me souviens de l'éclipse, c'est pas dangereux de regarder le soleil couchant fixement ?
Alors, si... Il faut vraiment que ça soit très, 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 très bas et que ça soit le moment où le soleil disparaît, et en faisant extrêmement attention. Donc, c'est pas du tout conseillé, ça, je suis d'accord avec vous. Vous vous retournez plutôt pour attendre que le soleil quasi disparaisse. Et au dernier moment, vous pouvez vous retourner pour essayer de voir si vous êtes en mer, par exemple, ou sur le bord, ou au sommet d'une montagne, le fameux rayon vert célèbre de Jules Verne, qui existe vraiment parce que c'est une décomposition de la lumière dans l'atmosphère.
Et comme on est dans Culture Média, je dirais que c'est aussi un grand film d'Éric Rohmer.
Oui, exactement.
Vous dites que pour observer le ciel, il faut se poster à un endroit, prendre un repère terrestre, un arbre, une colline. Pour quelle raison ? Juste un mot, vous avez choisi un combi comme le combi Volkswagen de Scooby-Doo.
Oui, parce que pour le compte, il faut être prêt tout le temps. Et puis, il faut pouvoir être mobile, vous comprenez ?
Ouais. Le ciel, ça bouge tout le temps. À quoi ça sert d'avoir un repère ?
Alors, d'avoir un repère, ça vous permet vraiment d'utiliser des cartes du ciel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme, je reprends l'analogie du jardin, mais si vous avez un très beau jardin, vous ne plantez pas quelqu'un au milieu de votre jardin en disant « Bon, débrouille-toi, tu vas voir, il y a des fleurs, c'est très beau. » Pas du tout. Vous les connaissez, vous les nommez. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc, c'est pas vrai. On va emmener les personnes en leur disant « Voilà, tu vois la lumière la plus intense, là, c'est l'étoile Vega de la Lyre. Puis à côté, tu as Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle. Ça forme un triangle qui te permet de descendre en direction du sud. »
D'accord. Oui, et c'est le repère agit comme un repère orthonormé.
C'est une boussole. Les étoiles servent elles-mêmes de boussole à découvrir des constellations plus petites. Et au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre ce que c'est que l'endroit, l'espèce de bande dans laquelle, zodiacale, dans laquelle se promènent toutes les planètes. Cet été, par exemple, vous verrez vraiment sans aucun problème, quand vous connaissez un tout petit peu le ciel, Jupiter, Saturne. Saturne dans une lunette, c'est un choc esthétique extraordinaire.
On voit les anneaux ?
Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça ressemble à une perle entourée d'un anneau. Quand vous regardez ça, vous ne croyez pas que ça puisse exister. En vrai, vous savez, c'est un peu comme les premiers jésuites. Lorsqu'ils ont regardé dans la lunette de Galilée, ils se sont demandé si c'était l'appareil qui ne créait pas un problème, qui ne créait pas ces anneaux. En fait, ça existe. C'est une merveille dans le ciel. Et c'est ça qui fait jubiler. Vous dites, c'est tellement beau. Quoi. Voilà, c'est la beauté qui compte.
On continue avec Alain Siroux et cette jubilation. On va parler de la manière, la carte interactive que vous avez créée juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Alain Siroux, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, le numéro spécial débuté en astronomie est sorti en kiosque depuis ce matin. Alain, vous donnez avec le magazine ceci, une sorte de carte interactive. C'est une sorte de cercle, un disque dans lequel il y a une sorte de, comment on pourrait dire, une carte du fond du ciel.
Oui.
Et sur les côtés, on fait coïncider une date avec une heure et on voit ce qu'on va... Comment dire ? On présuppose ce qu'on va voir dans le ciel. Voilà. C'est bien ça, j'ai essayé d'être clair.
Exactement, tout à fait. Vous êtes randonneur, vous êtes promeneur, vous ne connaissez pas le ciel, vous partez avec cette petite carte pour regarder à minuit, par exemple, aujourd'hui, ce 1er juillet, en direction du sud, et bien vous pointez le jour, l'heure exactement, et vous avez dans une petite fenêtre la visibilité totale de toutes les constellations qui apparaissent à ce moment-là. Ça permet de bien se repérer dans le ciel. C'est pas trivial, vous savez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire que la moitié des astrophysiciens, si ce n'est pas plus, n'a jamais regardé le ciel, ne connaît pas le ciel. Oui, parce que l'observation du ciel, c'est de la curiosité, je dirais, à portée de monsieur et madame tout le monde. Or, le métier d'astronome aujourd'hui, ça consiste à regarder, même pas, ça consiste à utiliser des télescopes pour regarder des galaxies très lointaines, pour mesurer la quantité de gaz qu'il y a dans l'univers, etc. Et c'est un peu comme les pilotes, vous voyez, les pilotes d'avion sont devant des écrans, ils pilotent vraiment plus comme on pilotait à l'ancienne.
Bien sûr.
Prendre aujourd'hui un petit avion et piloter, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et qui n'appartient pas seulement aux pilotes d'Air France. Donc, pour les astronomes, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est, vous savez, on vit tous dans des villes. Pour l'essentiel, enfin, aujourd'hui,
bien sûr.
Vraiment. On a la couche de pollution lumineuse au-dessus de nos têtes, on ne connaît pas les constellations. Or, dès que le ciel est dégagé, dès qu'on part en vacances, qu'il fait beau, alors on peut retrouver à travers cette clé de voûte, en quelque sorte, la meilleure façon, les constellations.
Alors, le petit ours et la grande ours, elles sont faciles à identifier, oui. C'est des casseroles. mais on peut reconnaître toutes les autres.
Oui, absolument.
Grâce à votre carte.
Grâce à la carte, et surtout ça permet, si vous voulez, de bien se repérer, c'est-à-dire ne confondons pas le sud, l'est et l'ouest, on peut se positionner parfaitement. Et puis la plupart des magazines d'astronomie donnent, on vous dit, voilà par exemple, Mars va se lever dans les poissons à tel moment, où sont les poissons?
Mais oui, où sont les poissons?
Comment? Alors, à partir de minuit, en direction de l'est, donc il faut repérer l'est. L'est, c'est de l'autre côté de l'ouest, l'ouest, c'est là où le soleil se couche, vous voyez, on apprend des petites choses comme
oui,
ça.
Oui, parce que les étoiles sont fixes et les planètes bougent.
Exactement, voilà. Tout à fait. Planète, ça veut dire astre errant en grec.
Juste un mot, les constellations, c'est artificiel. Elles ne sont pas ensemble du tout. Elles
pas
nous paraissent ensemble parce qu'elles sont projetées sur la voûte céleste.
C'est exactement
Mais elles sont très très éloignées parfois l'une de l'autre.
Et elles sont très éloignées et vous pouvez vous amuser avec les enfants, par exemple, à dessiner d'autres constellations que celles qu'on trouve dans les cartes du ciel. C'est un jeu génial. Moi, j'adore ça. Vous savez, on fait les nuits des étoiles régulièrement depuis une trentaine d'années.
Tiens, juste un mot, ça sera quand? C'est vous qui avez créé la nuit des étoiles? La nuit des étoiles filantes.
La nuit des étoiles, on était 7 ou 8. Il y a 30 ans exactement, autour d'Hubert Reeves et d'un certain d'astronomes, et on s'est dit... finalement, le ciel, on peut se l'approprier, je dirais simplement en rencontrant des gens qui le connaissent. Et l'idée, c'est le partage, c'est-à-dire que...
Attendez, vous ne m'avez pas répondu, ça sera quand? Pour les gens qui ont envie de partager.
7, 8 et 9 août, mais comme on est dans une période particulière, avec le confinement, etc., il y aura à peu près 200 à 250 sites qui seront disponibles pour que vous alliez observer les étoiles, mais on a prévu des veillées aux étoiles individuelles chez soi qu'on pourra réaliser.
Je précise, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, c'est 3 jours, mais ce n'est pas comme le Grand Prix de Monaco. La date ne se décide pas. Elle se décrète, c'est les étoiles qui décrètent la date.
Alors, l'idéal, c'est quand même que ça soit autour de la pluie des étoiles filantes qu'on appelle les perséides, qui sont des petites poussières de comètes que la Terre rencontre chaque année aux alentours du 11 août. Et puis, ça dépend de la Lune, parce qu'on dit toujours la pleine Lune, c'est le congé des astronomes. Ça brille tellement qu'on ne voit pas les étoiles. Donc, l'idée, c'est quand même de profiter d'un ciel bien noir, d'assister, c'est très lent tout ça, vous savez, vous regardez le coucher du soleil, vous regardez l'obscurité monter, vous voyez apparaître les premières étoiles brillantes, les constellations puis se dessinent tout d'un coup, la Voie lactée, cette obscure quantité de milliards d'étoiles qui se dévoilent sous vos yeux et puis apparaissent les étoiles filantes, et tout ça, ça peut durer toute une nuit, vous comprenez?
Alors, on peut voir beaucoup de choses à l'œil nu, vous l'avez dit. Puis d'ailleurs, les Grecs anciens voyaient tout à l'œil nu, avant Galilée.
Complètement.
Donc, ils ont découvert Mars, Saturne, etc.
Absolument.
À l'œil nu, ils avaient une bonne vue. Oui. Mais aussi, on peut s'équiper, ça demande de la préparation. Il ne suffit pas de s'acheter un télescope ou une paire de jumelles pour savoir s'en servir. Et dans le magazine, vous dites, il faut apprendre à maîtriser, j'ignorais totalement ça, la turbulence. Qu'est-ce que c'est la turbulence?
La turbulence, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire que quand vous regardez l'été, par exemple, une route qui a été chauffée par le soleil, vous voyez l'atmosphère briller au-dessus. Il y a de ça dans Mad Max, très très bien. Eh bien, vous imaginez, en fait, c'est à la fois notre protection, c'est-à-dire l'atmosphère composée de gaz et notre protection par rapport à l'espace, mais c'est aussi quelque chose qui bouge, qui vibre. C'est comme si vous regardiez à travers une fenêtre, à travers une vitre, et que cette vitre turbule, bouge. Donc il faut, je dirais, s'acclimater à ça, ou aller dans des endroits où finalement la turbulence se calme. On est aujourd'hui comme si on observait le ciel au fond d'une piscine, vous voyez, avec et plein de choses qui bougent. Donc l'idéal, c'est que ça se repose, que ça se calme. Pour ça, il faut attendre. On n'appuie pas sur un bouton. Parfois, ça turbule toute la nuit. Parfois, simplement parce qu'on est en altitude ou que le ciel est calme ou que vous êtes dans une forêt. C'est-à-dire dans un endroit où vous allez... bien sûr profiter du ciel, mais aussi vous allez profiter du reste de l'environnement. Et je pense que c'est ça qui fait le sel de l'astronomie, c'est que c'est quelque chose de global. La planète Terre appartient à l'univers et c'est ce qu'on découvre en observant le ciel.
Autre chose qui est globale, c'est ciel et espace, parce que c'est un écosystème. Là, il y a un numéro spécial, mais aussi votre prochain numéro, régulier, comme disent les Américains, le 572, 75 ans d'existence quand même, va paraître le 10 juillet. 12 énigmes pour le 21e siècle. C'est simple, vous avez 40 secondes.
C'est savoir poser des questions. C'est ça qui est important. Ce qui fait que cette revue existe, c'est que c'est une revue faite par des passionnés, mais des journalistes scientifiques, parce qu'il faut pouvoir décoder la complexité de la science et la mettre à portée du public. Ça appartient à une association qui a envie de faire découvrir le ciel, d'où les nuits des étoiles. Et puis, c'est quelque chose qui est un partage. C'est-à-dire que nous considérons aujourd'hui que parler de l'univers, c'est mieux comprendre la Terre. Depuis que l'homme a été, il y a 51 ans, sur la Lune, il a découvert quoi ? sa propre planète. Et cette planète aujourd'hui qui est en danger, cette planète qu'il doit respecter, et c'est en observant le ciel qu'il se rend compte que c'est beau, mais qu'il n'y a pas d'extérieur possible pour lui.
Puisque vous parlez d'Apollo 11 et des premiers pas d'Armstrong sur la Lune, vous montrez sur une carte de la Lune l'endroit où Apollo 11 s'est oui. posé, oui. mais c'est au dos, là, on ne peut pas le voir. Ouais. C'est juste pour nous, pour le savoir, mais on ne voit rien. On ne voit plus de traces depuis la Terre aussi.
On ne voit plus de traces depuis la Terre, on ne peut pas le voir. C'est juste pour se dire qu'un jour, quelqu'un s'est levé un petit matin en se disant « je monte dans une fusée et je pars sur la Lune ». Méditez, pensez à ça, Philippe. Imaginez que ce matin, vous vous levez, vous montez au sommet d'une fusée et vous allez sur la Lune. Vous imaginez le choc que ça fait. Et bien, quand on a interrogé les hommes qui ont fait ça, ils nous ont parlé de quoi ? De la Terre qu'ils ont découvert depuis là-haut.
Et vous connaissez la phrase géniale de Leibniz, c'est peut-être la plus grande phrase de la philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Merci beaucoup Alain Sirou, directeur de la rédaction de Ciel
Merci
et Espace. Le numéro spécial débuté en astronomie est en kiosque à partir d'aujourd'hui. Et puis le 10, ça sera le numéro, si j'ose dire, normal. 12 énigmes pour le 21e siècle. On va continuer à parler de presse écrite dans Culture Média qui continue. On va recevoir Jean-Marc Lalanne, le rédacteur-chef des Inrocks. Le magazine lui fête seulement ses 25 ans à la fin du mois. Et il sort un numéro spécial pour l'été. On en parle juste après ça.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Jean-Marc Lalanne.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le directeur de la rédaction des Inrocuptibles depuis décembre 2018, donc un an et demi. En fait, vous avez commencé le 1er janvier 2019. Mmh. Vous êtes plutôt spécialisé cinéma, vous êtes rédacteur-chef au Cahier du cinéma. Vous avez publié plusieurs livres consacrés à Jean Cocteau, Wong Kar-wai ou encore Fantomas. Et les Inrocks qui vont fêter cet été leurs 25 ans et qui publient aujourd'hui leur traditionnel numéro d'été spécial sexe. Avant qu'on parle du contenu, déjà une question marketing. On est Culture Média, c'est une émission média. À une époque où la presse est très fragilisée, un numéro spécial sexe, ça vend combien d'exemplaires de plus que d'habitude ?
Alors c'est chaque année depuis 16 ans, c'est la meilleure vente de l'année.
Ouais.
Et je dirais qu'on double les ventes d'un numéro normal.
Le titre, on ne peut plus, basique, sexe 2020. Est-ce que c'est un millésime ? Est-ce que c'est comme
Exactement,
FIFA 20 qui succède à FIFA 19 ?
Voilà, c'est un esprit de collection depuis 2004. On le sort chaque été et chaque il n'y a aucune accroche sur la couve, sinon la date est sexe.
D'accord. Et comment on fait pour trouver des choses nouvelles ?
On est très curieux, très attentif aux pratiques contemporaines. C'est vraiment un esprit de curiosité qui anime la confection de ce numéro.
Alors je dois dire que la couverture est très soft, même si elle est difficile à identifier. On ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas la couleur de peau. Et c'est fait exprès, j'imagine.
Oui, c'est pour être inclusif au maximum. On ne sait pas si c'est des filles ou des garçons. C'est des peaux plutôt de couleur. Et c'est des dents qui mordent un téton.
Voilà, vous êtes directeur de la rédaction, mais ce numéro a été supervisé par la rédactrice en chef adjointe. Elle s'appelle Carole Boinet. Elle signe d'ailleurs l'édito et elle nous a expliqué comment ce numéro a été préparé, car ça se prépare évidemment de longue date. Pour tout dire, ce numéro spécial a été doublement spécial.
Ça a été un peu bizarre de travailler sur les Inrocuptibles spécial sexe 2020, tout simplement parce qu'en fait, le confinement nous est tombé dessus, sans cri gare, comme pour tout le monde. Et donc, on s'est retrouvés à devoir faire ce numéro sans possibilité véritablement de faire du reportage, de l'enquête, d'avoir de la chaleur humaine. Donc, on s'est échangé des idées avec des pigistes, une super team de pigistes qui travaillent sur le numéro depuis des années, mais aussi des nouveaux, comme Judith Duportail, qui est journaliste et écrivaine, qui a sorti récemment le podcast à succès qui est Miss Paddle. Et donc Judith, en fait, elle m'a directement proposé comme idée l'apologie du self-porn. Qu'est-ce que le self-porn ? J'étais complètement circonspecte. Et puis elle m'a expliqué qu'en fait, pendant le confinement, elle s'était mise à se filmer en se masturbant. Et ensuite, elle regardait les images, etc. Elle a découvert en fait cette espèce d'auto-érotisme. Et derrière finalement son histoire personnelle que déjà j'appréciais énormément, j'ai beaucoup aimé en fait la réflexion que ça dessine sur la société.
Judith Duportail qui a signé un essai vendu à 10 000 exemplaires, L'amour sous algorithme, aux éditions de La Goutte d'Or, je préfère la citer. Vous connaissiez le self-porn avant cette enquête-là ?
Oui quand même.
Ah ben moi je... Carole Boinet qui a également signé un article, une découverte qu'elle a faite pendant ce confinement.
De mon côté, pendant le confinement, j'ai pas découvert le self-porn, mais j'ai découvert les chatonnades. Alors sur Facebook, il y avait une image de chatons qui se roulaient dans l'herbe. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le sexe ? Eh ben, il y en a un. Les chatonnades, c'est un collectif de personnes, des hommes, des femmes, des hétéros, des personnes LGBTQI+, qui font du sexe en groupe. Ils ont une dimension totalement politique dans leur démarche. Ils veulent améliorer le sexe, parce que selon ces chatons-là, si on améliore le sexe, eh bien, on améliore la société, une philosophie à laquelle j'adhère totalement.
Et est-ce que c'est pas ça un peu les Inrocks ? Toujours observer les phénomènes de société, mais en surplomb, quand bien même il s'agit de sexualité, ne pas s'arrêter à la surface des choses ?
Je dirais pas en surplomb, parce qu'on est quand même dans une empathie, dans un accompagnement des choses. Mais effectivement, on essaie de voir... Il y a quelque chose de politique dans notre conception de ce numéro sexe. On est vraiment du côté de l'inclusivité. On essaie aussi de voir comment, à l'intérieur des pratiques sexuelles, on peut repenser les modes de domination. Par exemple, on a fait tout un dossier sur le porno féministe, pour voir comment ce qui est en général le lieu absolu de la domination masculine, aujourd'hui, c'est investi par des réalisatrices extrêmement inventive, qui renverse ces schémas habituels de la domination et donne une place différente à la figure féminine à l'intérieur du porno. Carole parlait de la chatonnade. Il y a quelque chose de très beau dans la manière dont ce collectif échangiste essaie d'érotiser le câlin, les chatouilles, enfin des pratiques qui en général ne font pas partie de la sexualité, mais qui sont vraiment horizontales et du côté de l'égalité, du partage et de l'empathie.
On parlait du confinement, il y a également ce test. Qui êtes-vous depuis le 17 mars 2020? C'est Carole Boinet qui dit que c'est la question la plus importante à poser, parce que le 17 mars, c'était la date de mise en place du confinement. J'ai relevé cette question. Qui trouvez-vous le plus sexy, Taubira, Macron ou le professeur Raoult? Là, on est dans la galéjade.
Oui, ça, c'est un test qui est vraiment une parodie de test et qui fait pour rigoler.
Alors, ce numéro spécial est daté du 1er juillet. Est-ce qu'il y aura un numéro la semaine prochaine, ou est-ce que celui-ci fait office de numéro double, triple, voire quadruple?
Triple. Le prochain numéro ne sortira que le 22 juillet. Et ça sera aussi un numéro spécial, puisque c'est un numéro anniversaire.
Je vous demande ça parce que justement, à la fin du journal, la fin du journal est occupée par un guide, il faut que je le retrouve, qui dit, je l'ai noté ici, à voir et à écouter cet été, du 1er juillet au 19 août, toutes les sorties de l'été. Pourquoi vous n'avez pas fait que les sorties de la semaine ou des trois semaines?
Parce que dans le numéro anniversaire, on ne parlera pas de l'actualité culturelle. On s'est uniquement consacré sur l'histoire du journal. Donc là, on a vraiment couvert toutes les sorties musique et cinéma de l'été.
Alors, je l'ai dit, vous êtes un cinéphile averti. Vous attendez quel film?
Alors, le film que je l'attends plus, puisque je l'ai vu, le film François Ozon, qui est un peu mon film coup de cœur de l'été. Qui est, je pense, un des deux, trois meilleurs films de François Ozon. Un été 85, qui est une histoire d'amour entre deux adolescents. Un été en 1985, qui est une année où François Ozon lui-même était adolescent. Et c'est un film très très sensible et très habité sur un premier amour et un premier deuil.
Mathieu Charrier nous l'avait recommandé, on avait parlé ici à ce micro il y a quelques jours. Il y a Tout simplement noir aussi de Jean-Pascal Zadi, que j'attends beaucoup, ça sort le 8 juillet. Et White Riot, documentaire sur le mouvement anglais antiraciste, Rock Against Racism. On est dans le Londres punk de 77, là c'est vraiment, on est sur le trend, les Un Rock.
Oui, absolument. Moi je ne l'ai pas vu hélas, mais le journaliste qui l'a vu dit que c'est un documentaire extrêmement fort. Effectivement, White Riot, ça fait référence à une chanson des Clash, et c'est le socle de la culture musicale des Un Rock, évidemment.
Voilà, et alors là, je tombe des nues parce que je vois Mulan de Nicky Caro, c'est Disney. Je me dis, tiens, qu'est-ce que vient faire un film Disney dans les Un Rock? Et là, je lis juste le chapeau. Nouvelle relecture live ratée d'un succès Disney qui ici s'émancipe du scénario original pour se charger d'un étrange relent réac, malaise. On reconnaît bien les Un Rock. Vous restez avec nous, Jean-Marc Lalanne. Vous êtes le patron de la rédaction. On a encore plein de questions à vous poser sur le magazine qui fête ses 25 ans d'existence. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jean-Marc Lalanne, directeur de la rédaction des Inrocuptibles, les Un Rock qui fêtent en ce moment un anniversaire. Quel anniversaire d'ailleurs fêtez-vous? Même quels anniversaires? Il y en a plusieurs.
Alors en fait, les 25 ans de l'hebdo. Ouais. Parce que le journal est né, lui, il y a 34 ans, mais sous forme d'abord d'un bimestriel, puis d'un mensuel. Plutôt un mensuel de rock. Et en 1995, il est devenu un hebdo pluriculturel. C'est un traitant de rock, mais aussi de littérature, de cinéma, et un rythme hebdomadaire. Et donc, ça fait 25 ans qu'on est sur ce trend-là.
Et ensuite, il s'est mis à parler de politique. La personne qui vous parle, en l'occurrence,
il y a une dizaine d'années,
j'étais abonné au mensuel. Tous les journaux souffrent évidemment à cause de la crise. Et vous, le dernier chiffre que j'ai trouvé, 31 400 exemplaires par semaine, ça suffit pas pour que le journal soit équilibré. Comment ça marche, les Un Rock?
On cherche des solutions pour relancer les ventes. Et malgré tout, on est évidemment soutenu par un actionnaire qui croit énormément au titre.
Mathieu Pigasse.
Mathieu Pigasse, absolument. Là, on réfléchit à un projet de nouvelle formule. On cherche effectivement à remonter le niveau de vente.
Ouais. Avant de parler du virage numérique, justement, on va parler de ça. On a l'impression parfois que les Un Rock sont un peu perdus depuis des années, parce que vous étiez un mensuel culturel qui est passé hebdo et qui est devenu un magazine d'infos, sociétal, politique, militant, très marqué à gauche. Mais du coup, ça devient une niche et la stratégie n'a pas été payante. en termes de vente?
Je dirais qu'elle a été ponctuellement payante, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu un déploiement très news au début de l'année 2010, il y a eu aussi un essor de vente qui s'est érodé au fil des années, et la stratégie a été alors plutôt de repositionner le titre sur l'ADN d'origine, qui est effectivement la culture et même la musique. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a malgré tout une sensibilité très à gauche, il faut bien dire, qui fédère tous les gens qui font les un rock. Mais je dirais que cette sensibilité de gauche aujourd'hui, elle s'exprime dans nos choix culturels et dans la manière de parler de l'art et de la culture.
C'est quoi vos choix culturels, justement? Parce que je dis ça, c'était votre feuille de route quand vous êtes arrivé janvier 2019, quand les Inrocks sont arrivés.
J'étais là depuis longtemps.
Hein, mais à la tête de la Rédac. En gros, quand les Inrocks sont arrivés, le positionnement, c'était le rock anglais indépendant dont les grands médias et même la presse spécialisée Best Non Kenfold ne parlaient jamais, on n'entendait jamais ou peu parler des Smiths, et le renouveau du cinéma français, les Desplechin et tout ça, dont tout le monde disait que le cinéma français était mort et à enterrer. S'il fallait résumer, parce que c'est pas facile, c'est quoi le positionnement actuel culturel des Inrocks?
Je dirais que c'est de repenser la hiérarchie que les industries culturelles nous imposent sur des critères de financement, de puissance d'exposition. C'est se dire que
Oui, mais attendez. Ouais. Quand quelqu'un va acheter un disque, il se dit pas tiens, je vais repenser la hiérarchie.
Non.
C'est quoi le positionnement culturel? Qu'est-ce qu'on trouve dans vos pages?
D'accord. Vous voulez concrètement que je cite des artistes?
Des artistes ou des genres?
Ouais.
Parce que vous avez aussi dérouté vos lecteurs quand vous êtes mis à fond sur le rap.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va faire machine arrière.
Bien sûr.
Malgré tout, et je pense que les Inrocks ont aussi produit un travail sur le trip-hop. Ça n'a jamais été purement du rock. Je pense que les Inrocks n'ont jamais été rock and folk. Et il y a quand même une curiosité, une fluidité dans la manière de traiter les genres musicaux. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les artistes qu'on soutient, ça serait Édouard Louis, par exemple, en littérature, qui est vraiment, ou Virginie Despentes, qui sont vraiment deux icônes du journal. Je veux dire qu'en musique, ça peut être Idols, qui est vraiment un groupe qui relance le rock d'une manière extrêmement énergique. Et en cinéma, je dirais que Bertrand Mandico, par exemple, qui est un cinéaste d'art et d'essai assez pointu, mais qui est peut-être ce qu'il y a en France aujourd'hui de plus novateur et de plus ambitieux.
Vous m'avez appris un nom, je ne connaissais pas. On ne va pas toutes les citer, mais vous avez aussi dû faire face à des polémiques. La plus remarquable, je vais juste parler de celle-ci, c'était la couverture avec Bertrand Cantat en octobre 17. Vous étiez déjà aux Inrocks. Comment vous avez vécu cette polémique? On dit que ça s'est fait sans l'aval, dans le dos de la rédaction.
Pas tout à fait dans le dos, c'est-à-dire qu'on savait que cette couverture allait avoir lieu, ça n'a pas été caché, ça n'a pas été discuté.
Mais vous n'avez pas eu votre mot à dire.
Ça n'a pas été discuté. Je pense que c'était une erreur, que personnellement je ne l'aurais pas faite, que ça s'inscrivait malgré tout dans une histoire entre le journal et Noir Désir qui a duré sur plus de 25 ans, mais que c'était vraiment une grave erreur. Ouais.
Depuis septembre 2019, les Inrocks ont un nouveau directeur de la publication, c'est Emmanuel Hoc, qu'on connaît bien ici, c'est l'ancien président de l'AFP. Selon Mediapart, il envisageait de basculer du format hebdo au format trimestriel. Est-ce que vous confirmez avoir étudié ce basculement?
On en a parlé, on y a réfléchi, mais non, on réfléchit à plein de possibilités de changement de périodicité, mais je ne dirais pas que c'est dans les tuyaux, non.
Ce qui tient la corde, c'est le mensuel?
C'est aussi un élément de discussion, mais pour l'instant, rien n'est tranché, on travaille sur plusieurs hypothèses, y compris continuer l'hebdo et d'autres périodicités.
Et la décision sera prise quand, vous le savez?
Vraisemblablement courant de l'été.
Courant de l'été, ouais. Donc ça peut changer en septembre?
C'est une possibilité.
On peut apprendre en septembre que les Inrocks redeviennent mensuels.
C'est une possibilité que je ne confirmerai pas.
Dans quelle mesure vous avez été impacté par la crise du Covid? Et aussi, il y a une crise sur la crise pour la presse écrite absolument terrible, Presstalis.
Oui, effectivement, ces deux phénomènes se sont liés. Il y a une suspension de la sortie en kiosque qui a duré quelques semaines. Quelques numéros qui ont été purement virtuels. Puis on est revenu au print avant de revenir finalement en kiosque. Malgré tout, il y a eu une explosion des audiences numériques, à la fois des audiences payantes et des audiences gratuites. Toute la rédaction a investi de manière très énergique Internet. Et je dirais que ça a redéployé des énergies. C'était quand même un moment, même si on était tous confinés chez nous, un moment de partage et de collectif très intense.
Et donc justement, vous avez retrouvé, trouvé des nouveaux abonnés sur Internet.
Ouais, bien sûr, très, très sensiblement.
Ah oui, à hauteur de combien on peut...
Ah oui, on peut dire qu'on a quasiment doublé nos abonnements payants et quintuplé les audiences gratuites.
Combien d'abonnés payants?
Là, je n'ai pas le chiffre en tête.
Un ordre de grandeur?
Ouais, dans les 5 000, un truc comme ça.
D'accord. Et c'est pas beaucoup, 5 000?
Oui, on est un journal confidentiel. Enfin,
non, non, mais
on n'est pas Europe 1.
Pardon, non, non. Europe 1, le site est gratuit. Et l'abonnement coûte combien ?
L'abonnement coûte dans les 9,90 €.
Qui sont vos concurrents désormais ? Je me souviens d'une phrase du patron de Netflix à qui on demandait s'il craignait la concurrence de Disney+. Il a dit non, mon concurrent, c'est Fortnite. Qui sont vos concurrents ?
Alors,
c'est Télérama ou c'est les sites de musique ?
D'un point de vue du marché publicitaire, du point de vue des partenariats, Télérama ayant la même périodicité est évidemment un concurrent. Je dirais que au niveau des sujets qu'on peut faire, des exclusivités d'artistes, la concurrence peut aller de Vanity Fair à même Libération ou Le Monde. Ça dépend de quelle concurrence on parle.
Merci beaucoup Jean-Marc Lalanne, merci d'avoir rappelé la spécificité des Un Rock qui fête un double anniversaire, les 36 ans des Un Rock en tant que tel et les 25 ans de l'Hebdo avec ce numéro spécial Sexe 2020. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média qui continue avec dans quelques instants les infos puis le journal de la culture et notre invité Hugo Frey, il sortira le 17 juillet un nouvel album, ça s'appelle Autoportrait et à 90 ans, c'est là encore un anniversaire qu'on ne pas s'arrêter, nos indispensables de l'humour avec le spectacle de Vincent Dedienne, Louise Bernard l'a vu pour nous et puis on va vous faire découvrir un classique de la littérature, 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde et pourtant en France, qui connaît Watership Down, eh bien vous connaîtrez, ce sera juste après le flash de 10h.